La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons notre exploration de l'esplanade aux 193 drapeaux de l'Organisation des Nations Unies à New York, en compagnie de Françoise Thibault, professeure émérite à l'Université de Poitiers et correspondante de l'Institut. Cette ONU, nous nous sommes rendus compte lors du premier épisode qu'elle avait été très rarement présente au cinéma, à la fois peut-être parce que les cinéastes s'y intéressaient peu, mais surtout c'est parce qu'ils n'avaient pas obtenu l'autorisation de la filmer. Et nous avions pu voir comment la chose s'était déroulée pour Hitchcock avec son projet de Mort aux trousses et comment il avait contourné les interdits. En revanche, les choses ont changé, et les choses ont changé en particulier avec un film de Cinépola qui n'est pas le plus connu de sa filmographie, L'Interprète. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Françoise Thibault ?
L'Interprète a été filmé en 2003, je crois. C'est ça, oui. Avec des moyens bien plus considérables que dans les années 50. Et grâce au secrétaire général de l'époque, qui était Kofi Annan, ils ont été autorisés par le directeur des relations avec les médias, qui lui était indien, à filmer dans certains endroits de l'Organisation des Nations Unies. Alors ça a été quand même très encadré. Il y a plusieurs scènes qui ont été tournées dans le grand hall d'entrée, notamment il y a un plan de Sean Penn qui est dans le hall et qui se demande ce qu'il fout là, et les gens qu'il doit rencontrer ne sont pas là, alors il est là plongé dans ses pensées, bon, qui doivent être intéressantes. Et ensuite vous avez plusieurs scènes qui ont lieu dans les cabines des interprètes ou près des cabines des interprètes. Vous avez notamment une série de plans où on regarde la salle où ont lieu les débats depuis les cabines, et puis ensuite l'image est inversée. Vous avez depuis l'estrade des débats des plans sur les cabines, et puis vous avez des divagations dans les couloirs, les bureaux, et puis vous avez la présence de Nicole Kidman dans les bureaux qui sont dévolus à la sûreté de l'ONU qui est faite par les autorités américaines, à la fois de New York et de l'État américain.
L'État fédéral.
Voilà, de l'État fédéral. Donc, vous avez plusieurs plans comme ça, et puis vous avez des scènes qui sont filmées. Il y a une scène auprès du Conseil de sécurité. Ça, je crois que c'est un des rares plans général où on a l'ensemble de l'espace dévolu au débat du Conseil de sécurité, qui d'ailleurs depuis 2003 ont changé de couleur. En 2003, ils étaient vaguement beigeâtres, verdâtres. C'est mieux maintenant, c'est moins moche. Mais voilà. Et puis vous avez des scènes de parking, de couloirs. C'est assez construit comme visite des bâtiments.
Oui, parce que l'idée, bien sûr, de l'équipe du secrétaire général, c'était aussi d'avoir un film en faveur de l'ONU,
oui,
à travers la thématique du
film.
C'est
ce qu'il avait dit, d'ailleurs. Voilà. Il avait dit, ça nous fera une bonne publicité.
Voilà. Je ne sais pas si l'objectif est atteint, parce que le film n'est pas d'une grande qualité, voilà,
oui,
esthétique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment ils ont travaillé. Donc, ce que nie Sidney Pollack, c'est qu'en réalité, c'est ce grand bâtiment, ou ces grands bâtiments, d'un point de vue technique pour les filmer, ce n'est pas simple. Il compare ça à une église. Donc, il y a beaucoup d'architecture, mais qui en réalité ne facilite pas le travail de filmage.
Ben, c'est soit trop grand, soit trop petit.
Voilà, oui, l'exiguïté des cabines de traduction.
C'est le problème de tous les lieux officiels. Vous avez des espaces de cathédrale, comme il le dit très bien, qui sont immenses, parce qu'il faut que ça soit immense. C'est leur dévolution. Bon, mais les lieux de travail sont souvent très exigus, donc c'est un peu compliqué. Les cabines d'interprètes, mais c'est des clapiers, hein, vraiment. Enfin.
Oui, oui, et ce qui est intéressant, ce qu'il dit, lui, en tant que citoyen états-unien, il a été beaucoup plus impressionné par l'Assemblée générale, le lieu de l'Assemblée générale, que celui du Conseil de sécurité, que visiblement il voyait souvent sur les écrans de télévision.
Oui, on les voit assez souvent. L'enceinte de l'Assemblée générale est très imposante. C'est un bel endroit. Et ce qu'on ignore très souvent, c'est que l'ONU se filme elle-même.
On y reviendra peut-être plus tard. Et alors, pour finir sur ce film, avant de passer à l'écoute d'un extrait, c'est le chef opérateur Darius Kondji qui a raconté que dans ce film-là, il a pratiqué quelque chose qu'il ne fait pas habituellement, c'est-à-dire qu'il a donné le choix aux acteurs principaux, donc Nicole Kidman et Sean Penn, de choisir s'ils voulaient être filmés dans la lumière, dans la pénombre, dans l'obscurité ou la demi-pénombre. Et au moment des répétitions, donc, ils ont tourné avec leur choix et ensuite, ils ont ou pas poursuivi sur ce choix. Voilà, donc c'était visiblement lié au contexte du lieu de tournage, en utilisant la lumière naturelle, les ombres, l'obscurité propre à ces locaux.
Oui, parce que le lieu est particulier quand même. On ne va pas dans ce bâtiment par hasard. Et puis, dans la mesure où on ne traite pas directement, c'est encore une sale histoire, l'histoire de l'interprète. Hein. C'est des gens qui trichent, qui vendent des renseignements à qui il ne faut pas, etc. Mais il y a une certaine ambiance quand même. Mais ça recoupe ce qui existe déjà pour Hitchcock, c'est-à-dire que la vraie fonction de l'ONU n'est jamais traitée, n'est jamais directement abordée. Il ne faut jamais oublier que dans ces bâtiments, on est censé maintenir la paix. C'est ça.
Envers et contre tout.
Envers et contre tout.
Et cet objectif de maintien de la paix, eh bien, nous allons l'écouter dans l'extrait de maintenant, c'est-à-dire Quai d'Orsay et la fin de Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier.
Une intervention militaire prématurée détruirait l'unité de la communauté internationale, donc remettrait en cause la légitimité de son action et, dans la durée, son efficacité. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout, face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité de construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Françoise, de cet extrait du discours, par qui il a été prononcé et comment il a été accueilli au sein de l'enceinte du Conseil de sécurité ?
Alors, le discours a été prononcé en février 2003, lorsqu'il y a eu la énième guerre du Moyen-Orient, d'une violence incroyable, dans laquelle, alors c'était l'époque Bush de Noël.
Le fils Bush.
Oui, qui voulait rentrer dans l'art du Moyen-Orient. Et c'est une des plus graves imbécilités de politique internationale de notre époque. Et l'auditoire a été extrêmement étonné que le modeste ministre représentant des affaires étrangères françaises se mette en opposition frontale avec ce désir américain. Ça a vraiment été un coup de semonce étonnant. Et l'accueil a été d'abord éberlué. Ils ont mis beaucoup de temps à applaudir. Et ensuite, au bout de quelques secondes d'applaudissements modestes et prudents, tout le monde s'est mis à battre des mains et s'est levé pour ovationner le représentant français. C'est, je dois dire, un des peut-être 10 discours de ces 50 dernières années qui ont laissé vraiment une trace. Et qui avait, parce que dans les développements précédents, il avait décortiqué les mots qu'il ne fallait pas entraîner par cette intervention militaire. Les mots de délitement total du Moyen-Orient. Et je dois dire que ce discours était très bien fait. Il avait été remis sur le tapis pas mal de fois, et l'exactitude du vocabulaire, du phrasé, du propos ont vraiment marqué les débats
de l'histoire du
Conseil de sécurité.
Ce que dit Bertrand Tavernier dans le bonus du film, c'est que c'est le premier discours au Conseil de sécurité qui était applaudi. C'est ce premier discours dont il reprend un extrait et qu'il filme dans l'enceinte du Conseil de sécurité. Mais il n'a pas voulu être trop apologétique.
Non.
Et donc il n'a pas surligné ce fait-là, ni en mettant un carton, ni en ajoutant des voix off de conseillers qui pourraient dire « mais c'est la première fois », etc.
Non, non.
Le film s'achève ainsi, avec ce oui. dont vous avez parlé, c'est-à-dire ces membres du Conseil de sécurité qui sont un petit peu saisis, pétrifiés, quelques secondes, et puis quelques légers applaudissements, et puis cet enthousiasme, et puis la musique de fin du film.
Oui,
voilà.
Oui, non, il ne fallait surtout pas devenir dogmatique, démonstrateur de... c'est pas un film politique qui est d'Orsay, hein, c'est un film léger, une fois de plus, mais qui est bâti sur une véritable connaissance du travail diplomatique. C'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est unique dans le répertoire cinématographique international. Dans le répertoire français, on a beaucoup de descriptions de vie politique extrêmement bien faites. On est un pays très politique en France, hein. Il n'y a qu'à voir notre situation actuelle. Nous sommes abreuvés de propos politiques à un point qui est, à mon avis, excessif. Mais il y a un savoir-faire véritable dans la diplomatie. C'est un vrai métier, la diplomatie. Et ça ne s'apprend pas en un jour.
Et là, ce qui est intéressant, c'est le point de départ de ce film.
Oui, c'est ce jeune énarque qui est convoqué pour faire, il ne sait pas quoi, d'ailleurs, il est assez étonné. Alors, il doit être dans un bon classement de sortie d'école d'administration. Et l'arrivée au Quai d'Orsay est très drôle, parce qu'on est noyé dans les visiteurs, il regarde ses chaussures parce qu'elles ne sont pas propres, il est trimballé par des huissiers méprisants, les huissiers du Quai d'Orsay. Quand vous n'êtes pas habitué de la maison, c'est l'enfer. Et puis il attend, il est presque endormi, et d'un seul coup, il a ce zèbre-là qui dit « Bonjour, camarade !» Et il est chargé du langage. Et alors, au départ, il ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Alors après, il retrouve sa compagne, et il bavarde, et bon, ça s'arrange. Et puis alors, il fait partie de cette équipe proche
du ministre des Affaires étrangères.
Du cabinet, des débats, des commissions bidons, des journées où on n'a jamais le temps ni de bouffer, ni de pisser, comme dit le ministre. Et il s'habitue petit à petit. Mais c'est très difficile de rentrer là-dedans. Très difficile. Il faut avoir les attitudes adéquates. Il faut avoir les vêtements adéquats, il faut avoir le vocabulaire et le phrasé adéquat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un vrai diplomate peut vous parler des soirées entières sans rien vous dire. Et c'est très bien étudié, et je dois dire que Thierry Lhermitte est phénoménal dans ce rôle. Il est le ministre. Il est vraiment le ministre.
Alors, il est le ministre Taillard de Worms, qui est en réalité un personnage déformé du ministre de l'époque, c'est-à-dire Dominique de Villepin.
C'est vous qui le dites.
Ah ben, bien sûr, puisque là, on est avec la reprise des propos du discours qu'il a prononcé devant le Conseil de sécurité.
Oui,
et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, ce film est une adaptation d'une bande dessinée. D'une très grande bande dessinée.
D'une remarquable bande dessinée.
Quai d'Orsay, donc co-signé par le nom de plume Abel Lanzac, donc en réalité Antonin Baudry, qui a été chargé des langages à ce moment-là dans le cabinet du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, et par le très grand dessinateur de BD Christophe Blin.
Oui.
Une BD en deux tomes, publiée chez Dargaud, qui a été ensuite adaptée en scénario donc par les deux co-auteurs, donc Antonin Baudry, Christophe Blin, et puis le réalisateur Bertrand Tavernier, Tatave.
Oui, tout à fait. Et le propos est extrêmement fin. La bande dessinée était remarquable. Et je trouve que l'adaptation visuelle qu'en a fait Tavernier est tout à fait fine et intelligente. Notamment, comme vous le dites, ne pas insister sur les choses importantes, comme ça, les laisser au cerveau du spectateur. Et c'est un cadeau formidable, ce film. Tavernier est un immense, d'abord un immense cinéaste, et puis c'est un homme, sa passion unique et totalitaire était le cinéma.
Tout à fait, un immense cinéphile. L'autre personnage important, c'est le personnage du directeur de cabinet.
Alors, Nils Arestrud.
Qui a trouvé là son meilleur rôle.
Ah oui, c'est un rôle formidable. Il est au sommet. Et puis, il y a ce contraste extraordinaire entre le trublion ministre et puis toute cette équipe de bavards. Il y a quelques silhouettes d'empêcheurs de tourner en rond, qui sont brèves, mais qui illustrent très bien. Et c'est tout à fait ça. Hein. Tout à fait ça.
Oui, la description du cabinet ministériel et de celui-ci en particulier.
Les visiteurs importuns, le chat Pol Pot. Arestrup offre le contraste véritable. En fait, ce sont les permanents du Quai d'Orsay, qui font fonctionner le Quai d'Orsay. Comme je l'ai déjà dit pour les autres séquences, vous avez souvent des ministres qui ne font que passer et qui connaissent rien au film, en plus. Bon, vous en avez eu quelques-uns catastrophiques comme ça. Et en plus, le peu de temps qui reste, place les copains. Donc, il ne faut pas se laisser coincer dans cet univers. Et les gens qui tiennent la boutique, ce sont la dizaine de permanents du Quai d'Orsay.
Du Quai d'Orsay. Et là, en particulier, le personnage de Niels Harstrup est inspiré d'un personnage important.
Véritable.
Voilà, véritable, oui. Qui est Pierre Vimont.
Oui.
Voilà, qui a occupé ses fonctions pendant très longtemps et qui a été la cheville ouvrière du ministère des Affaires étrangères. Donc on a ici un matériau qui est extrêmement documenté, à la fois du fait d'Antonin Baudry, alias Abel Lanzac, qui a couché les dialogues dans la BD, puis ensuite dans le film, mais également, oui, la volonté de la part du cinéaste Bertrand Tavernier d'être au plus juste.
Oui.
Et quoi de mieux que de filmer ce grand discours au sein de l'enceinte du Conseil de sécurité.
De même que le film a vraiment été tourné dans les vrais locaux du Quai d'Orsay. Donc vous avez ce bâtiment qui est une splendeur, ces salons merveilleux, le bureau du ministre est le vrai bureau, le bureau de Niels Harstrup est le vrai bureau du secrétaire général. Enfin, je dois dire que c'est une performance d'avoir fait ça. Et c'est un film remarquable, vraiment.
Oui, cette authenticité, cela participe de cette authenticité du film. Si nous revenons à l'ONU, vous nous dites, l'ONU, vous nous avez dit précédemment, l'ONU se filme elle-même ou produit des films.
Oui,
est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Il y a plusieurs volets à signaler rapidement. D'abord, l'ONU se filme elle-même, puisque les séances sont filmées, enregistrées, conservées dans la mesure du possible. Souvent, quand c'est important qu'il y a des longueurs, des choses inutiles, c'est monté, remonté, pour être conservé. L'ONU filme également, pour des raisons de sécurité, les allées et venues, qui sont conservées pendant un certain délai, puis ensuite effacées, pour voir, par exemple, s'il y a un attentat ou ailleurs, etc. Si ces gens sont soupçonnés d'avoir essayé de fomenter un truc vers l'ONU, etc., on repasse les bandes pour essayer de déterminer. C'est pour ça que la reconnaissance faciale est d'une utilité extraordinaire et quelquefois utilisée sans qu'on le sache. Donc, l'ONU se filme elle-même. Il y a une banque d'archives à l'ONU même qui est phénoménale. Bon. Depuis le tout début, tous les visiteurs, tous les discours de début de session, tout, etc., etc. Il y a les débats également du Conseil de sécurité. Il n'y a pas les réunions internes de travail, ne sont jamais filmées. Voilà. Et puis, il est défendu de prendre des notes, il est défendu d'emporter les notes chez soi. C'est très important également. Le deuxième volet, qui alors lui est très très important, c'est que l'ONU centrale et les différentes légations de l'ONU dans le monde, les différentes organisations annexes, etc., financent et produisent des outils filmés et sonores dans les domaines qui leur importent. Bon. Donc, l'ONU finance ce qui explique son travail. C'est très
c'est
important.
Un travail pédagogique.
Voilà. Donc, vous avez des productions dans des domaines extrêmement variés qui recouvrent toutes sortes d'activités, à l'exception du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ça, là, les finances sont peu filmé. Mais par exemple, la FAO filme produit des films et des bandes sonores sur les différents points de famine, sur les secours. Le HCR, alors le Haut Comité pour les réfugiés, a une banque de données extraordinaire sur les camps de réfugiés, sur la façon dont on les traite, sur la façon dont les différents États, qui sont souverains, il faut le rappeler,
traitent sur leur territoire.
Les réfugiés sur leur territoire. Ça, c'est très important. Quand il y a un pays qui la ramène sur des sujets où il a été nul, on lui ressort les photos, on lui ressort les dialogues d'obstruction, etc. C'est très important. Donc, vous avez des productions ONU qui portent ou ne portent pas son label, mais qui sont financées et produites. Et puis, vous avez des maisons de production, des postes sonores et visuels privés qui peuvent être financés. Il suffit de déposer un dossier avec un dossier qui tient la route, qui est bien argumenté, avec un storyboard très bien, des approches, quelquefois des prémices de films, etc., qui sont approuvées ou pas approuvées. Et si c'est approuvé, ben vous devenez produit par telle filiale de l'ONU.
Ce qui fait que nous avons là, de façon inversement proportionnelle, beaucoup de productions audiovisuelles par l'ONU et l'ensemble des organisations qui en dépendent, et inversement, peu de films qui traitent ou qui ont été autorisés à filmer l'ONU.
Oui.
Mais les films de fiction en particulier, bien sûr.
Oui, les films de fiction grand public ne sont pas intéressés par l'ONU. D'abord, comme je l'ai écrit, il y a très peu de cinéastes, de producteurs, de scénaristes qui connaissent réellement le travail de l'ONU. Hein ? C'est très juridique, donc c'est pas marrant. Je sais bien que les Américains adorent les films
de procès,
avec des arguments juridiques, mais bon, d'abord, peu sont réussis et ça devient très vite ennuyeux. Et puis en plus, on a de plus en plus affaire à des publics qui n'ont aucune culture, ni historique, ni juridique. Donc, produire des films qui ont trait à ça, à moins qu'ils soient très amusants, très bien faits, très légers, comme Hitchcock ou comme Tavernier, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est beaucoup d'argent dépensé pour un résultat qui sera assez nul. Voilà. Donc, y a ça. Et puis, il faut, pour aborder certains sujets, des moyens considérables.
Des moyens financiers.
Des moyens financiers. Et puis des moyens de visualisation des situations qui sont pas à la portée de tout le monde. Hein. Il faut avoir un vrai œil cinématographique pour oser aborder les questions de onusienne.
C'est sur ces propos que nous allons nous quitter. Je vous remercie, Françoise Thibault, de cet éclairage, de cette promenade au sein de l'ONU et des quelques films qui ont marqué son histoire. Et je ne peux qu'inviter, évidemment, les auditeurs à voir La mort aux trousses et Quai d'Orsay. Et merci à Léobardo Arango, qui est toujours fidèle au poste dans la réalisation et la coordination de cette émission. Au revoir à toutes et à tous.